Le calvaire des chrétiens d'Irak ne semble pas avoir de fin. Il y a 15 jours, des dizaines de fidèles étaient tués lors de la prise en otage de toute une église à Bagdad. 10 jours plus tard, toujours dans la capitale irakienne, 13 bombes explosées à travers la ville, prenant pour cible des maisons de chrétiens. 6 nouvelles victimes et 33 blessés étaient dénombrés. L'incurie des autorités irakiennes ne permet pas de protéger ces communautés sous le feu des terroristes. Du coup, les chrétiens en appellent au pape. Cette semaine, le cardinal Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, demandait au gouvernement de Nouri al-Maliki de prendre sérieusement en considération la sécurité de ses concitoyens, jugeant toutes ces attaques très douloureuses. Car sur place, les chrétiens vivent de plus en plus dans la peur, comme nous le confiait Mgr Sleiman, l'archevêque des Latins de Bagdad.
Un seul mot, c'est la peur. J'étais frappé aujourd'hui par la peur que j'ai rencontrée sur les visages des gens. Et même s'ils ne parlent pas, on voit bien que les attaques contre des maisons chrétiennes dans différents endroits a vraiment, je veux dire, ressuscité cette peur. Je dirais même atavique, parce qu'au fond, c'est pas la première fois. Mais après l'attaque à l'église, il y a encore du tragique. Elle est plus silencieuse, peut-être, mais elle est certainement plus dangereuse parce que c'est cette peur qui va porter beaucoup de gens à s'en aller.
Ces attaques revendiquées par les terroristes d'Al-Qaïda et leurs affidés ne font rien pour améliorer l'image de l'islam dans les pays occidentaux. C'est pourquoi le président américain, en tournée en Asie cette semaine, a voulu promouvoir un islam tolérant et modéré lors de son passage en Indonésie, un pays musulman qui a fait le choix de la démocratie. Barack Obama entend ne pas se laisser enfermer dans une rhétorique haineuse, comme nous l'explique François Rayon, chercheur au CNRS.
Il vient pour tenir un discours de soutien et d'encouragement à l'islam non arabe, mais démocratique, moderne et modéré. Il y a là une vision stratégique qui est de dire, nous autres les Américains, nous combattons le terrorisme international par la guerre en Afghanistan, mais d'un autre côté, nous poussons l'islam libéral, l'islam démocratique, et nous le trouvons en Indonésie, et l'Indonésie pourrait être un modèle politique, en tous les cas, voire économique, pour le reste du monde musulman.
Comme si le séisme du début d'année, les cyclones de cet automne ne suffisaient pas. Haïti doit faire face à une épidémie de choléra. Apparue dans le nord du pays il y a plusieurs semaines, elle se répand maintenant partout et n'épargne pas la capitale, Port-au-Prince. L'absence d'hygiène dans les camps de réfugiés, la promiscuité, le mauvais réseau hydraulique, des capacités d'incinération ou d'enterrement limitées, autant de raisons qui ne favorisent pas l'endiguement de la maladie. Mais l'incurie des pouvoirs publics, notamment des élus, est également dénoncée, notamment par le père Gérard Dorméville, prêtre dans l'île. Face à tous ces problèmes, il dresse la liste de ce qui devrait être fait pour combattre le choléra.
Il faudrait qu'on mette sur pied des cellules vraiment capables d'accompagner la population dans un travail de sensibilisation, de responsabilité, parce qu'il faut responsabiliser les gens du point de vue hygiénique pour que chaque personne ou bien chaque Haïtien puisse se prendre en main. Les stations de radio sont sensibilisées à ce problème. Ils offrent des antennes libres à des médecins, à des gens qui sont formés là-dessus, au moins pour parler à la population. Mais je crois qu'en termes d'intervention, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait vraiment des actions concertées, au moins pour qu'il y ait des formations à la fois.
Cette semaine est celle des grands sommets internationaux propices aux grandes déclarations. Premier d'entre eux, le G20, réuni à Séoul en Corée du Sud. Les discussions ont été dominées par les questions monétaires, notamment la faiblesse du yuan chinois et du dollar américain. Ce G20, qui réunit les 20 principales économies du monde, a surtout été l'occasion de se rendre compte, si ce n'était pas déjà fait, que ce sont les États-Unis et la Chine qui dominent les débats, preuve s'il en est que rien ne peut se faire sans eux. Or, loin d'être aussi rivaux qu'ils en ont l'air, ces deux pays sont plutôt complémentaires, comme nous l'expliquait Jean-Yves Naudet, professeur d'économie à l'université d'Aix-en-Provence.
Les pays sont liés, et notamment les États-Unis et la Chine qui semblent s'opposer, en réalité sont étroitement dépendants parce que les Américains ont un déficit budgétaire énorme. Comment peuvent-ils l'avoir? Grâce à l'argent que leur prête la Chine, qui est le premier acheteur de bons du Trésor américain. Les Chinois ont un excédent commercial énorme, notamment parce que les Américains ont, eux, un déficit et donc achètent des produits chinois. Et ils les achètent comment? À crédit. Et ce crédit, d'une certaine façon, est financé par la Chine. Il y a un jeu ici un peu pervers parce que les Américains ont besoin des Chinois et les Chinois ont besoin des Américains.
Après cette réunion à Séoul, s'ouvre un autre sommet où l'on retrouve quelques-uns des acteurs précédents, celui de l'APEC, le Forum économique de l'Asie-Pacifique qui se tient à Yokohama, au Japon. Mais c'est bien la politique qui domine les débats, et surtout les différents frontaliers, différents entre le Japon et la Chine, et différents entre le Japon et la Russie. Tokyo doit affronter ces deux puissants voisins qui n'hésitent pas à revendiquer des îles disputées depuis des décennies. Ces litiges et les crises qui s'ensuivent, et qui connaissent un regain depuis quelques semaines, sont la preuve du déclin du Japon pour François Gonnement, chercheur au CERI, le Centre d'études et de recherches internationales.
Un pays qui est en déclin démographique, un pays qui a tant de restrictions sur l'usage de la force, un pays qui a énormément de difficultés à convaincre ses partenaires qu'il a complètement rompu avec son passé, c'est un pays qui n'a pas non plus une excellente diplomatie publique. Donc de ce point de vue-là, il est en difficulté, il est assez isolé en Asie. On se trouve devant le problème d'un pays vieillissant à un taux de croissance limité dans une zone où les taux de croissance sont explosifs et où les populations sont beaucoup plus jeunes.